Bonsoir à toutes et à tous. Boris Johnson, le nouveau Premier ministre de Grande-Bretagne, va-t-il réussir le Brexit ? Celui que le magazine The Economist présente comme un demi-clown et qu'on compare parfois à Donald Trump, le répète, il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne le 31 octobre. Alors pourquoi pense-t-il réussir là où Theresa May a échoué ? Quels sont les atouts de l'excentrique nouveau leader du Royaume-Uni ? Et puis quelles seront les relations demain entre la Grande-Bretagne et l'Europe, la France en particulier, dans un monde de plus en plus sous tension ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Boris Johnson défie les Européens ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Turl. Vous êtes journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Nous accueillons Patrick Martin-Jeunier. Vous êtes enseignant en droit public, spécialiste des affaires européennes, auteur de « L'Europe a-t-elle encore un avenir ?» chez Studirama. Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et enfin, John Henley, correspondant à Paris du quotidien britannique The Guardian. Alors, Philippe Turl, tout d'abord, est-ce qu'il faut s'attendre à tout à Boris Johnson, avec Boris Johnson au 10 Downing Street, comme on dit ? Est-ce que ça va être sportif ? Est-ce qu'on va s'amuser ?
Alors, je réponds en deux temps. La première, c'est que si on compare Boris Johnson à Theresa May, oui, il faut attendre à tout. Parce qu'avec Theresa May, on a vu depuis trois jours un énorme changement dans la Chambre des communes avec ce personnage énergique, rassembleur, même, je dirais, un peu qui ressemble un peu à Winston Churchill avec on va se battre sur les plages, on va se battre dans les champs, etc. C'est un vrai appel à se réunir pour aller à la défi, à savoir le Brexit pour le 31 octobre. Mais de l'autre côté, on voit quelqu'un qui raconte beaucoup de choses, qui parle à tout le monde, qui dit exactement ce que les gens ont envie d'entendre. Mais là, la chose difficile arrive parce qu'il est maintenant Premier ministre. Il a toujours rêvé d'être Premier ministre. Quand il était gamin, il disait « je voudrais être roi du monde ». Ben là, maintenant, il est allé aussi haut qu'il peut aller, étant maintenant Premier ministre de Grande-Bretagne. Mais ce qu'il faut qu'il comprenne, et je pense qu'il le sait, c'est qu'avant, il critiquait tout ce qui était fait par les autres. Maintenant, c'est à lui d'aller plus loin. Et là, je pense que les vrais problèmes commencent pour Boris Johnson.
Parce qu'il a les commandes, voilà. Voilà. Donc, c'est plus difficile. Patrick Martin-Jeunier, on sait qu'il utilise beaucoup, il manie beaucoup l'humour, etc. On va revoir cette une de The Economist qui va même jusqu'à le présenter à moitié clown. C'est ce qu'on appelle le charismatisme, être charismatique. En même temps, est-ce que cette image de bouffon ne peut pas le desservir et porter atteinte à sa crédibilité, ne serait-ce que quand il va être le mois prochain, au G7 à Biarritz ?
Tout à fait, il n'a aucune crédibilité. On parlait tout à l'heure qu'il a certainement des qualités. Il faut être assez intelligent, stratège pour être Premier ministre. Mais aujourd'hui, il sait très bien qu'il va droit dans le mur. Moi, j'ai écouté son intervention devant la Chambre des communes. Il n'a répondu strictement à aucune question. Il a fait un discours très offensif, un discours de guerre, même sur le pas du 10 Downing Street. Et il n'a pas fait de propositions concrètes. Il a simplement dit qu'il allait recruter 20 000 policiers supplémentaires. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et sur le Brexit, il sait très bien qu'il va droit dans le mur. Donc, il a eu des propos de bouffon, de quelqu'un qui, finalement, n'a aucune proposition concrète, un discours de guerre, un discours de campagne électorale, parce qu'il sait très bien qu'il va droit dans le mur et il n'a répondu à aucune des 130 questions qui lui avaient été posées. Il a un discours extrêmement offensif en disant « ça passe ou ça casse » et, effectivement, c'est une posture, non pas de Premier ministre ou d'homme d'État, mais de dramaturge ou d'homme de théâtre.
Quelle est son image en Grande-Bretagne, John Henley ?
Écoutez, c'est quelqu'un qui vient d'un certain élite. Je ne pense pas qu'il faut l'oublier. Il a fait quand même les meilleures écoles, vraiment,
Oxford,
du pays.
Oxford
et Eton, les écoles, les meilleures écoles.
C'est comme si chez nous, il avait fait Polytechnique et HEC, quoi.
Exactement.
Elena.
Voilà, exactement. C'est quelqu'un à qui on a longtemps beaucoup pardonné. Parce qu'il incarne en quelque sorte deux qualités que les Britanniques apprécient beaucoup, c'est-à-dire l'humour et l'autodérision. Et ça, il manipule très très bien.
On le voit se décoiffer
complètement,
exprès.
Il joue un rôle. Il joue le rôle d'un homme politique qui ne prend pas les choses au sérieux. Et on lui a pardonné quasiment tout, hein, parce qu'en même temps, c'est un menteur, hein, il a menti, il a été viré de son premier emploi en tant que journaliste au Times, parce qu'il a menti, il a carrément inventé une citation, il a menti, il a inventé des mythes à propos de l'Union européenne quand il était journaliste à Bruxelles. Il
comme
a
la banane plate,
complètement. Il a menti, il a été viré du ce qu'on appelle le shadow cabinet, donc le gouvernement de l'opposition, quand les conservateurs étaient en opposition, parce qu'il a menti sur l'existence ou non d'une maîtresse. On ne sait pas combien il a d'enfants, imaginez-vous. On ne sait pas combien.
Mais alors justement, on lui pardonne tout parce que les Anglais qui aiment bien les excentriques.
On lui pardonne tout parce que il a l'humour, il n'est pas sérieux, il est un peu bouffon, il est clown, il ne joue pas l'homme politique classique. Mais je suis complètement d'accord avec Philippe. Là, les choses vont commencer à devenir sérieuses parce que là, ça marche. Quand on est à un poste qui n'a pas beaucoup de responsabilités, comme par exemple le maire de Londres, quand on est Premier ministre, c'est différent.
Oui, alors Sylvie Matelli, est-ce que c'est un idéologue droit dans ses bottes ou est-ce que c'est un pragmatique un peu opportuniste qui aujourd'hui se fait élire en disant vous aurez un Brexit, mais qui sera capable de retourner sa veste et de continuer à gouverner en faisant complètement autre chose?
Je pense qu'il n'est ni l'un ni l'autre en réalité. C'est quelqu'un qui a une terrible confiance en lui. Qui est un atout et qui a été un atout jusque-là. L'humour vient de là, en fait, il en joue, mais c'est parce qu'il est sûr de lui, parce qu'il a confiance en lui, mais ça peut également le desservir dans un certain nombre de contextes. C'est quelqu'un qui n'est pas, me semble-t-il, idéologue, qui croit en son destin et qui pense que le Royaume-Uni a été handicapé depuis des années et que le déclin en fait du Royaume-Uni vient en grande partie non pas des pays émergents et du reste de la planète, mais de l'Union européenne qu'il méprise pour des raisons diverses et variées.
Alors qu'il était né à
Alors qu'il est né aux
il États-Unis. Habité à Bruxelles.
Il est né aux États-Unis, il a vécu à Bruxelles. Il est partagé lui aussi entre l'Europe et les États-Unis au fond, et il semble avoir fait une partie du choix en tout cas. Donc cette confiance en lui qui lui a servi jusque-là va le desservir parce qu'on entre dans une période où on va avoir besoin de... si vous voulez, il a confiance en lui, il croit en son destin, donc les choses vont suivre, l'intendance suivra, comme dirait l'autre. Au fond, là, ça ne va plus être du tout le cas, c'est-à-dire les dossiers qu'il a à gérer, et en particulier les dossiers du Brexit, sont des dossiers extrêmement techniques.
Toujours sur le portrait, Philippe Torl, on le compare beaucoup à Donald Trump. Est-ce qu'on a raison de dire que c'est le Donald Trump européen?
Honnêtement, je pense que la comparaison, ce n'est pas à cause des cheveux, à cause du fait que c'est des grands personnages, mais sur le fond, ils sont radicalement différents. Je pense que Boris Johnson, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je pense que Boris Johnson est plus intelligent que Donald Trump. Il a fait quand même les grandes écoles. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, qui est un politique... enraciné, qu'il a toujours voulu gouverner, alors que je pense que Donald Trump, c'est un homme d'affaires, ce que Boris Johnson n'est pas. Mais sur le populisme, sur le bonheur à raconter à tous que les gens ont envie d'entendre, là, je trouve qu'il y a une similitude entre les deux dirigeants. Alors, est-ce qu'ils vont s'entendre ensemble? Ça, bon, faut voir. Donald Trump a été très chaleureux dans ses éloges à Boris Johnson quand il était élu cette semaine, mais comme on sait très bien, Donald Trump peut changer d'avis du jour au lendemain, comme de chaussettes. Donc, il faut voir maintenant si Boris Johnson est prêt à céder à toutes les demandes de Donald Trump pour le soutenir. S'il ne le fait pas, je pense que la lune de miel sera de courte durée.
On dit souvent Trump avec un dictionnaire.
Trump avec un dictionnaire. On sait que Donald Trump a apporté son soutien à Boris Johnson. Il a dit que ce ferait un excellent Premier ministre. Comment ça a été perçu ce soutien? Est-ce que ça a été un soutien un peu embarrassant? Parce que quelle est l'image de Donald Trump en Angleterre?
Pas très. Ça dépend si, évidemment, si on soutient, si on aime Trump ou non. Mais la grande majorité des Britanniques, les sondages le montrent, n'apprécient pas trop Donald Trump. Il y a eu de grandes manifestations contre l'arrivée de Trump. Il est venu deux fois en Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas seulement Trump qui a accueilli Boris Johnson ou l'arrivée de Boris Johnson à 10 Downing Street avec des bras ouverts. Vraiment, c'était quelques populistes et des gens, des politiques d'extrême droite, un peu Salvini, l'a accueilli. Hein. Pauline Hanson, qui est la chef des populistes nationalistes en Australie. L'AFD en Allemagne, ravi. Donc ça dit quelque chose quand même sur ce qu'ils attendent, les populistes, les nationalistes.
Il n'est pas embarrassé d'être soutenu comme ça par tous les partis d'extrême droite européen. Parce que ce n'est pas son histoire quand même.
Pas du tout, pas du tout. Mais voilà, ça indique à quel point, ça indique l'échelle du défi qu'il attend, en fait.
Oui, Patrick Martin.
Oui, non, je voulais dire, il y a quand même des points communs sur la forme. Hein, on a beau dire qu'il a fait les meilleures écoles, il ne maîtrise absolument pas ses dossiers, c'est quelqu'un qui est capable de dire tout et n'importe quoi, et par conséquent, il joue au bluff, il y va au bluff avec des coups de poker, et ça, il ressemble beaucoup, effectivement, à Donald Trump, mais ce dernier fera jouer America First, d'abord les États-Unis, et s'il croit pouvoir signer un accord commercial tout de suite qui serait favorable à la Grande-Bretagne, il risque de déchanter. Ensuite, il y a aussi la connivence idéologique. Il vient de recruter un homme qui s'appelle Dominic Cummings, David Cameron, l'ancien Premier ministre, a appelé le psychopathe de carrière. Donc un homme qui est très près de Steve Bannon, et on voit bien que malgré tout, aujourd'hui, le Parti conservateur s'est rapproché de cette extrême droite conservatrice, alors que ce n'est pas forcément le sens de l'opinion publique au Royaume-Uni.
Il a été, contrairement, il ne débarque pas en politique, il a été maire de Londres. Pendant 8 ans, il a été ministre des Affaires étrangères. Quel a été son bilan, là ?
Eh bien, le bilan n'a
pas été... Le sourire, là.
Il a été réélu à Londres. En tant que maire de Londres, il vante beaucoup ce qu'il a fait en tant que maire de Londres, en termes de réduction de crimes, etc., etc. Mais en fait, si on le regarde de près, les chiffres à Londres ont plus ou moins suivi ce qui se passait ailleurs dans le pays. D'accord. Donc, il n'a pas fait mieux qu'ailleurs. Et au ministère des Affaires étrangères, c'était de la vie générale un catastrophe. C'était lamentable.
Excusez-moi, mais il y a deux éléments importants. En tant que maire de Londres, il a laissé une ardoise financière considérable. Il a lancé des grands projets qui n'ont jamais vu le jour, notamment ce fameux pont végétal. Il a dépensé sur le dos du contribuable plus de 40 millions de livres d'études et ce pont n'a jamais vu le jour. C'est votre excellent journal qui le disait. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, il a passé des contrats très juteux avec l'Arabie saoudite quelques jours après que le royaume ait bombardé au Yémen et tué plusieurs dizaines de civils. Donc on voit très bien que son bilan n'est pas excellent et c'est pour cela qu'on peut avoir des doutes sur sa qualité d'être Premier ministre.
Alors Boris Johnson s'est entouré d'un commando de hard Brexiteurs pour constituer son gouvernement, car l'ancien maire de Londres, confortablement élu par les membres du Parti conservateur mardi dernier, pour lui, son mandat est clair, réussir enfin le Brexit avant le 31 octobre, avec ou sans accord, sujet de Juliette Vallon et Myriam Zéhar.
Boris Johnson, longuement applaudi par le personnel du 10 Downing Street lors de son arrivée mercredi. Quelques minutes avant, le nouveau Premier ministre britannique s'est exprimé devant la célèbre Porte Noire pour lancer avec fougue son premier message : le Royaume-Uni sortira victorieux du Brexit.
À tous ceux qui continuent de prophétiser un désastre, je dis oui, il y aura des difficultés, mais je pense qu'avec notre énergie et notre motivation, ce sera bien moins sérieux que certains l'ont proclamé. Et s'il y a une chose qui a vraiment sapé la confiance des entreprises ces 3 dernières années, ce ne sont pas les décisions que nous avons prises, mais celles qu'on a refusé de prendre.
L'ancien maire de Londres, officiellement investi dans ses fonctions par la reine Elisabeth II, qui lui a souhaité bonne chance. 3 ans après le vote du Brexit, le Royaume-Uni est plus divisé que jamais sur le sujet, divisé encore plus sur le profil de Boris Johnson, crédité de seulement 31% de popularité.
Vous savez, il travaille très peu tout seul. Il laisse son entourage tout faire pour lui. Sa personnalité, c'est tout ce qu'il a, comme Donald Trump ou d'autres leaders populistes. Tout tourne autour de la personnalité pour ces gens-là, qui en oublient de faire de la politique. Et ça nous fait vraiment du mal. Il va dire quelque chose qui ne sera pas forcément un mensonge, mais il va donner aux gens l'impression que ça en est un, ou leur laisser croire des choses, comme par exemple le fait de quitter l'Europe. Ça fait partie de tous les objectifs qu'il a souhaité accomplir, mais qui ne se sont jamais produits et qui ne se produiront jamais.
Boris Johnson, une personnalité excentrique, couplé à une ligne politique dure, qui a fait fuir certains poids lourds du gouvernement avant même son arrivée au pouvoir. Parmi ceux qui ont démissionné, le vice-premier ministre David Lidington, le ministre des Finances Philippe Hammond ou encore celui de la Justice David Gauck. De quoi permettre au nouveau locataire de Downing Street de s'entourer d'une équipe d'eurosceptiques. Avec Sajid David aux finances, Priti Patel à l'intérieur et Dominic Raab aux affaires étrangères. Enfin, Dominic Cummings, un anti-européen accusé d'avoir truqué la campagne pro-Brexit en 2016, a lui été nommé conseiller spécial. Et Boris Johnson, d'être intraitable sur la date limite de sortie du Royaume-Uni de l'Europe, fixée au 31 octobre. Pour son premier discours devant la Chambre des communes hier, il s'est aussi emparé de la question de la frontière irlandaise, négociée pendant des mois par Theresa May avec Bruxelles, une clause dont il veut se débarrasser.
L'accord de retrait négocié par Theresa May a été rejeté à trois reprises par cette Chambre. Ces termes sont inacceptables pour ce Parlement et ce pays. Aucun pays qui valorise son indépendance et le respect de soi ne pourrait accepter un traité qui fait fi de son indépendance économique et de son autonomie, comme le fait le backstop.
Une reprise des négociations avec Bruxelles qui s'annonce difficile, comme le montre ce courrier envoyé par Michel Barnier aux représentants des 27 autres pays membres.
Boris Johnson a déclaré que si un accord doit être conclu, il faut éliminer le filet de sécurité. C'est évidemment inacceptable et ne relève pas du mandat du Conseil européen.
Même position côté français, pas question de renégocier l'accord, mais Paris mise sur la diplomatie.
Nous, on a toujours dit, on a fixé le 31 octobre, on a l'accord sur la table, ce qui a renégocié et ce qu'il y a encore à négocier, c'est la relation future, et il faut que nous soyons responsables. Ça veut dire que nous soyons clairs, prévisibles, c'est ce que je vous dis, et puis il faudrait qu'en face, on arrive à créer une relation de travail, qu'on ne soit pas dans les jeux, les postures, les provocations.
Hier, Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont entretenus au téléphone. Une conversation qui devrait se poursuivre rapidement entre le président de la République et le Premier ministre britannique, invité à se rendre en France dans les prochaines semaines.
Alors, Philippe Turl, qu'est-ce qui fait que Boris Johnson pense qu'il va réussir là où Theresa May a échoué? Parce que là, la date, c'est dans trois mois, le 31 octobre.
Pour revenir à la date d'abord, depuis hier, les députés britanniques sont en vacances. Normalement, le Parlement revient le 3 septembre. Donc, j'ai fait un calcul entre le 3 septembre et le 31 octobre. Si on compte 5 jours ouvrables par semaine, il restera 43 jours
pour trouver un accord,
mais pour non pas seulement trouver un accord, mais pour que ça soit voté par la Chambre des communes, pour que la législation soit mise en œuvre pour partir le 31 octobre. Donc, c'est carrément impossible d'arriver à une sortie propre à cette date, sauf miracle de la part et de Boris Johnson et de l'Union européenne. Alors Boris Johnson y va au bluff en disant, voilà, je suis un nouveau Premier ministre, j'ai une autre ligne d'attaque par rapport à Theresa May. Le deal qu'elle avait négocié, c'était pas bon, je vais renégocier autre chose. De toute manière, l'Europe doit nous donner ce qu'on veut parce que l'Europe va être perdante si nous n'aurons pas son deal. Donc je voudrais un deal, mais si on n'a pas de deal, si l'Europe ne veut pas nous écouter, eh ben, nous partirons sans deal.
Eh ben, c'est très clair ce que vous nous dites là.
Voilà, mais je pense que vu l'affaire telle que c'est, dès que c'est fait, et le chemin qui va suivre, on est certainement sur le chemin d'un no deal. Parce qu'arriver à négocier avec l'Union européenne un deal, le faire passer par la Chambre des communes, rappelez-vous, ça fait 3 ans que Theresa May était dessus, ça a été rejeté 3 fois par la Chambre des communes.
Alors,
comment il va faire en 43 jours ?
Sylvie Matelli, est-ce que son camp pourrait finir par... Ils ont dit, bon, on a dit non à Theresa May, ce coup-ci, on va voter le deal. Vous savez, ça s'est vu dans l'histoire. Regardez Tsipras, qui a été élu pour refuser les potions amères du FMI, finalement, il a appliqué l'austérité à son peuple. Bien souvent, on voit des gens réussir à faire accepter des accords.
Alors, on pourrait imaginer ça si Boris Johnson était d'accord avec le deal. Parce que la grande différence entre Theresa May et Boris Johnson, c'est que Theresa May soutenait l'accord qu'elle avait négocié avec Michel Barnier et les Européens, alors que Boris Johnson est totalement opposé à cet accord. Et d'ailleurs, il a systématiquement voté contre quand la question lui a été posée au Parlement. Le vote a été à 3 reprises et il était les 3 fois...
Il a voté une fois en faveur à la fin.
D'accord. Et donc, La question ne se pose même pas. Il ne présentera pas cet accord-là. Il veut renégocier un accord.
Et il n'y a pas des chances que ce coup-ci, l'Europe lui dise...
L'Europe
ne donnera rien.
Il n'y a rien à renégocier parce qu'il n'y a rien dans cet accord à part ce backstop. C'est-à-dire, ce backstop, c'est quoi? C'est une garantie, c'est une assurance que le conflit entre d'accord. l'Irlande et l'Irlande du Nord ne va pas redémarrer. Donc, il n'y a rien à négocier. Tout justement, le principe même de cet accord, et c'était très malin cet accord, c'était de prévoir qu'on allait ouvrir une période de transition qui allait permettre de négocier la relation future.
Alors, si on va vers un no deal, et là je me tourne vers vous, John Henley, c'est mauvais pour la Grande-Bretagne, mais c'est mauvais aussi pour l'Union européenne. C'est pour ça que d'ailleurs que Angela Merkel, souvenez-vous, avait dit « bon, moi je ne veux pas de no deal, donc on va... Oh. » Justement, question téléspectateur, l'Union européenne ne va-t-elle pas accorder un nouveau délai aux Anglais pour éviter le no deal ?
Sans doute. Mais ouais, ça va faire beaucoup moins de mal à l'Union européenne que ça va faire à la Grande-Bretagne. Il ne faut pas se douter de ça. Mais la vérité, je pense, en fait, vraiment, c'est que Boris Johnson, il ne veut pas de deal. Je pense que sa stratégie est vraiment très claire. Si on écoute ses discours, tout ce qu'il a dit ces deux, trois derniers jours sur un âge d'or qui attend la Grande-Bretagne, hein, et que voilà, le mieux était à venir, etc., que la Grande-Bretagne allait redevenir un grand pays, le meilleur ouais. pays au monde, il a dit. Il a pas prononcer les mots, mais c'était presque « Make Britain Great Again », donc le slogan de Trump. Rendons à la Grande-Bretagne fière d'elle, encore une fois. Si on regarde à côté de ça, les ministres qu'il a nommés dans son gouvernement, tous des Brexiteurs purs et durs. S'il regarde ce qu'il a été dit aujourd'hui à 10 Downing Street, on ne veut même pas commencer de renégocier sauf si l'Union européenne laisse tomber le backstop.
Donc sortie sans accord. Est-ce que c'est forcément une catastrophe? Souvent, on nous annonce des catastrophes qui n'arrivent pas. Si ça se trouve, une sortie sans accord, et là, d'ailleurs, il le dit, moi, je vais m'émanciper de l'Union européenne et je vais faire de Londres ou de l'Angleterre un paradis fiscal aux portes de l'Europe.
C'est ce qu'il vise, lui. Il faut toujours se rappeler avec Boris Johnson que c'est son ambition qui le gouverne, en fait. Lui, il a toujours rêvé d'être Premier ministre. Il veut rester Premier ministre pendant 5 ans. Lui, il a compris que la meilleure façon pour lui de faire ça, c'est d'aller voir Bruxelles, d'exiger quelque chose que les 27 ne peuvent jamais donner, de revenir à Londres, de dire aux députés britanniques, bon, on va sortir sans accord. Les députés vont dire non. Ensuite, Boris Johnson, il va chercher une élection pour être au pouvoir pendant 5 ans. Et il va lancer une campagne sur les thèmes très, très clairs. Les Européens nous méprisent, ils ne nous respectent pas. Les députés britanniques, le Parlement, c'est tous des Remainers, ils veulent rester, c'est un élite, ils ne représentent pas, ils ne respectent pas la volonté du peuple. Votez pour moi, je suis le seul qui va vraiment mettre en œuvre ce pourquoi vous avez voté en 2016.
Patrick Martin-Jeunier, visiblement, on va vers une sortie sale, sans accord, non négociée, avec la Grande-Bretagne le 31 octobre. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, on dit toujours peut-être que les avions ne pourront pas atterrir à Paris.
Non, je pense qu'il y aura. On ne va pas interdire les avions, on ne va pas interdire les transports. Il y aura, parce que, vous savez, il dit des choses, tout sera bien. Il a eu un discours, c'est la grandeur du Royaume-Uni, nous allons nous en sortir car nous sommes bien plus forts seuls que l'ensemble des pays de l'Union européenne. Sauf que lorsque vous regardez les milieux économiques, moi je suis allé sur le site de la Chambre de commerce britannique, et ils vous disent que les milieux britanniques ne sont pas prêts pour ce Brexit. Ils ne sont pas prêts parce qu'il va y avoir des taxes, il va y avoir des attentes aux frontières. Ça va être une catastrophe pour les milieux économiques qui l'ont félicité bien poliment, mais qui savent très bien qu'ils ne sont pas prêts pour, effectivement, c'est le directeur général de la Chambre de commerce qui l'a dit, et Boris Johnson cherche l'affrontement, manifestement. On disait tout à l'heure que c'est un homme intelligent, il cherche l'affrontement parce qu'il sait qu'il va droit dans le mur, la façon dont il va y aller, ça lui importe peu au final. Il a appelé Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Il n'ira pas à Bruxelles. Il a appelé également le président de la République, Emmanuel Macron, qui lui a dit « nous ne renégocierons pas l'accord de sortie ». Et il y a quelques heures, il vient d'appeler Angela Merkel, qui lui a tenu le même langage. Et donc, il va essayer tout de même. La seule éventuelle possibilité, ce serait de rompre la solidarité de l'Union européenne. C'est ce qu'il va essayer de faire, parce qu'il n'a même pas envie de passer par la case de Bruxelles. Il veut aller rencontrer les leaders, les uns derrière les autres. Et il espère que certains grands pays, comme l'Allemagne, seront plus sensibles à son discours et qu'ils essaieront essaieront de trouver peut-être un arrangement sur le filet de sécurité, le fameux backstop.
Juste une chose, parce que c'est important. Le fait qu'il ne veut pas de deal ne veut pas forcément dire, je pense, qu'on sortira sans accord. Parce que si Boris Johnson peut faire tout cela, ce que je viens de décrire, avant le 31 octobre, et c'est-à-dire donc, il sera refusé par Bruxelles, refusé par le Parlement, et il veut, donc à ce moment-là, il organise des élections. Les Européens ont dit, ils ont réaffirmé plusieurs fois, ils sont prêts à accorder un nouveau report, une nouvelle extension pour des élections.
Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, probablement voyant qu'il n'a pas la majorité au Parlement, il dissoudra, nouvelles élections, il espère gagner, à moins que ce soit la gauche qui l'emporte. Voilà, est-ce qu'on pourrait avoir un Jeremy Corbyn, le leader travailliste de gauche, qui serait Premier ministre d'ici octobre? Et là, alors, c'est compliqué, parce que lui, il veut rester, Jeremy Corbyn. Alors,
honnêtement, je ne le pense pas, parce que les travaillistes sont complètement divisés et on n'est pas vraiment sûr de ce que veut Jeremy Corbyn. C'est très, très flou sur est-ce que je veux rester dans l'Union européenne, est-ce que je vais appeler pour un nouveau référendum, est-ce que sur le fond, je suis anti-européen, j'aimerais bien qu'on fasse le Brexit quand même, mais je ne peux pas le dire.
Il y a beaucoup de méfiance. Même les alternatives.
Voilà, il y a beaucoup de méfiance.
Oui. Mais Sylvie Matelli, juste, on ne va pas rentrer dans l'histoire du backstop en Irlande, mais on voit bien qu'il y a un problème de l'Irlande qui, au fond, ne veut pas qu'on remette une frontière entre la République Irlande du Sud et l'Irlande du Nord. On voit bien qu'il y a une volonté qu'on ait une vraie Irlande unie. On voit aussi par ailleurs qu'il y a l'Écosse qui est agacée par toutes ces histoires de Brexit et qui veut faire un référendum pour l'indépendance. Ce que je veux dire derrière, c'est est-ce qu'il ne se joue pas en ce moment, sans qu'on le voit, l'intégrité du Royaume-Uni qui pourrait, si on continuait, finir par perdre l'Irlande, qui deviendrait indépendante et se réunifierait, et l'Écosse qui voterait sa sortie?
Oui, tout à fait. Et ce, d'autant plus que je crois qu'on sous-estime les conséquences à court terme d'un no deal. Je ne suis pas sûre qu'une fois les choses normalisées, le Royaume-Uni s'en sorte pas aussi bien que l'imagine Boris Johnson. Ça, c'est difficile à dire. Mais 70% des réglementations britanniques aujourd'hui sont des réglementations européennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 31 octobre, vous déchirez la copie. Donc vous déchirez 70% de vos lois, de vos règles, et vous imaginez la suite. Alors bien évidemment, on n'est pas dans l'improvisation. Depuis le début du mois d'août 2018, les Britanniques publient, le département en charge de la sortie publie régulièrement des notes, les remet à jour très régulièrement. C'est des centaines de pages de papier qui expliquent aux Britanniques comment vont se passer toutes les formalités une fois qu'on sera sorti. Donc ça, c'est très très bien. Simplement, dans la vraie vie, il se passe quoi? Vous avez un formulaire sous les yeux que vous n'avez jamais vu, que vous ne savez pas remplir. Vous avez l'habitude, quand vous allez voir votre médecin, de remplir d'avoir des démarches, en fait, des démarches qui sont normalisées au niveau européen depuis un certain nombre d'années. Et tout d'un coup, tout va être très différent. Tout va se passer de manière...
On ne peut pas garder les anciennes normes et continuer en se disant « Maintenant, on aura la liberté de les modifier sans demander notre avis à Bruxelles, sans demander son avis à Bruxelles. »
Alors, c'est en partie ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, c'est en partie ce qui est en train de se passer si vous lisez les papiers, les publications qui expliquent comment ça va se régler après le Brexit s'il n'y a pas d'accord. Grosso modo, c'est exactement ce que dit le gouvernement. Vous inquiétez pas, on va continuer à fonctionner comme
avant. Mais on sera libre.
Simplement, la réglementation ne dépend pas que du Royaume-Uni. Il y a aussi la question du passage des frontières. Et le Royaume-Uni n'étant plus européen, eh bien, il va falloir gérer la relation différemment.
Non, pour revenir sur ma question sur l'intégrité du Royaume-Uni, est-ce que c'est un souci de la reine, ça, qui se dit ce Brexit, je ne m'en mêle pas, mais moi, je suis à la tête du Royaume-Uni, ce qui suppose Grande-Bretagne, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord. Et il ne faudrait pas que j'en perde.
C'est sans doute un souci de la reine, mais elle n'a pas le droit de le dire. C'est ça le problème. Elle n'a pas le droit de s'exprimer sur des questions politiques.
Mais c'est un fantasme, la désintégration du Royaume-Uni ça ne m'a pas l'air d'être très...
Alors, elle, c'est sûr qu'elle n'en parlera pas, parce qu'elle ne... Comme j'ai souvent dit, elle ne peut pas le dire. C'est pas qu'elle... Elle a peut-être envie de le dire, mais elle ne peut pas le dire pour la simple raison qu'elle ne veut pas diviser le peuple encore plus qu'elle est divisée. Et si elle dit « je préfère pas de Brexit », bon, elle va... évidemment aliéner tous ceux qui ont voté en faveur du Brexit. Donc elle ne veut pas le dire, mais je pense qu'elle est quand même un peu soucieuse. Alors en regardant cette photo hier qui a été prise avant-hier avec Boris Johnson, il semble que, alors c'est extrêmement rare que des informations de ces réunions hebdomadaires entre la reine et le Premier ministre sortent, mais là, apparemment, la reine lui a dit, mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un aimerait ou voudrait avoir le travail que vous allez faire. Parce que c'est un travail qui est quand même épouvantable. Je pense qu'elle elle est préoccupée par ça. L'Écosse, déjà Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, a fait comprendre que s'il y a un Brexit sans accord, elle va faire le nécessaire pour avoir un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Et il se peut aussi qu'en cas pas de parlement dans l'Irlande du Nord qui n'existe pas pour le moment, qu'il y a la possibilité que l'Irlande du Nord rejoigne la République irlandaise. Donc, il est vrai que la Grande-Bretagne pourrait perdre deux parties du Royaume-Uni à cause d'un Brexit. Donc, il est vrai qu'il y a beaucoup de soucis à se faire, point de vue reine et point de vue Premier ministre.
Très rapidement, la reine joue un rôle, mais très discret. Par exemple, elle s'est rendue il n'y a pas longtemps à Édimbourg, et il y a une visite très médiatique qui a été faite avec Nicola Sturgeon, Premier ministre de l'Écosse, qui a été médiatisée, ce qui veut bien dire que la reine se préoccupe de l'intégrité territoriale.
L'attachement à l'Écosse.
Et c'est une visite qui a été très médiatisée.
Alors que Boris Johnson a réaffirmé sa volonté de mettre en place un Brexit au 31 octobre, ses opposants espèrent un blocage au Parlement, car selon eux, il n'y aurait alors pas d'autre choix que de convoquer de nouvelles élections, on l'a dit, ou alors d'organiser un nouveau référendum. Reportage à Londres de Myriam Zéhar et David Lemarchand.
Sous les fenêtres du Parlement britannique, chaque jour, c'est le même rituel. Steve et quelques autres irréductibles militants anti-Brexit ne se découragent pas. Tous ici espèrent un nouveau vote, la solution selon eux à la crise que traverse leur pays.
Bien sûr qu'un second référendum est possible. Boris Johnson est profondément imprévisible. C'est notre Trump à nous.
Un nouveau Premier ministre, partisan d'une sortie avec ou sans accord, à un Brexit dur qu'ils entendent combattre sur le terrain.
Vous voulez un autocollant ? C'est pour soutenir la campagne, pour le vote populaire, pour un second référendum. Je pense que la décision doit revenir aux citoyens britanniques. On doit être les seuls à décider de quel Brexit on veut.
On n'est pas sorti de l'Europe le 29 mars, on n'est pas sorti le 12 avril et on ne sortira pas le 31 octobre. Il n'y a pas de plan, c'était une idée stupide, ça n'a aucun sens. La seule chose qui, moi, m'inquiète, c'est que l'Union européenne va commencer à en avoir marre de nous. Pour éviter une nouvelle impasse, l'idée d'un second vote fait partie des pistes privilégiées par de nombreux anti-Brexit. Une option que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a maintes fois mise en avant, comme mercredi dernier.
Un référendum est la seule issue possible pour le pays et ironiquement pour Boris Johnson.
Un scrutin qui ne peut s'organiser que si une loi est votée. Un simple amendement ne suffit pas. Les députés pro-européens, les libéraux-démocrates, aimeraient aussi voir un second référendum organisé. Pas question pour eux que le Parlement ne laisse passer un no deal.
Si vous persistez à vouloir sortir sans accord, cela sera contre la volonté des parlementaires, des citoyens, et vous assumerez seul la responsabilité du chaos qui en découle. Combien faut-il de référendums pour que les libéraux-démocrates respectent enfin le résultat du vote ?
Boris Johnson ne veut pas entendre parler d'un second référendum. Mais à la Chambre des communes, il ne bénéficie que d'une courte majorité. Sa marge de manœuvre reste limitée. Tous les scénarios sont donc permis, selon ce député.
Peut-être que Boris Johnson lui-même décidera qu'il ne peut pas aller vers une sortie sans accord, qu'un accord avec l'Union européenne n'est pas possible, et que c'est trop risqué pour lui d'aller vers des élections anticipées. Donc pourquoi ne pas soumettre au vote des gens l'accord actuel de sortie et leur offrir de choisir entre cet accord ou rester dans l'Europe ? C'est tout à fait possible que le Premier ministre décide que le référendum est le seul moyen de sortir du marasme actuel.
Un nouveau référendum ou un vote populaire, c'est l'espoir que partage évidemment Simon Thompson, membre du collectif People's Vote, dont l'objectif premier est de donner aux citoyens une nouvelle occasion de s'exprimer sur le Brexit.
Seuls 160 000 membres du Parti conservateur ont eu le privilège de voter pour choisir le nouveau Premier ministre qui décide du Brexit. Et parmi cela, 100 000 personnes ont voté pour Boris Johnson. Ce n'est même pas 0,4% des citoyens britanniques. Est-ce que c'est démocratique? Non, je ne pense pas, et beaucoup de gens non plus. La plupart d'entre eux veulent avoir leur mot à dire sur la façon dont le Brexit va se dérouler si nous partons.
S'il était décidé, l'organisation d'un nouveau référendum pourrait prendre des mois. Du temps dont les Britanniques manquent cruellement, en tout cas pour l'instant.
Alors justement, question téléspectateur, un second référendum est-il encore envisageable? John Henley, c'est exactement ce que dit Tony Blair dans une tribune, il dit « Les Anglais, enfin les Britanniques, n'ont pas voté pour une sortie sans accord. Mmh. » Donc si Boris Johnson fait une sortie sans accord, il va falloir que le peuple donne son avis, son aval.
Ce n'est pas, on ne peut pas l'exclure, hein, mais je pense quand même que c'est moins probable que de nouvelles élections législatives. Pourquoi? Parce que je pense que Boris Johnson, il est convaincu qu'il peut gagner une élection contre Jeremy Corbyn. Il n'est pas convaincu qu'il gagnera un référendum si la question était sortie sans accord ou rester dans l'Union européenne, ce qui risquerait d'être la question. Donc lui, il veut vraiment, je pense, éviter un référendum à tout prix. Ça pourrait, le Parlement pourrait l'obliger à en organiser.
Ah, oui.
Ça, c'est possible. Ce qui va se jouer en Parlement, c'est extrêmement compliqué. Les majorités ne sont vraiment pas claires.
Jeremy Corbyn a dit qu'il souhaitait, le leader travailliste, un nouveau référendum.
Tout à fait. Mais ce que peut faire le Parlement face à un gouvernement et un premier ministre déterminé à faire autre chose, et donc reste à être testé. On ne sait vraiment pas. Et il y a aussi, juste dernier petit point, on l'a souvent évoqué ici, mais il reste des questions quand même démocratiques très, très sérieuses sur la désirabilité d'un deuxième référendum. C'est très, très... Ça porte vraiment dommage à la démocratie de demander...
De voter
une
en
fois,
2016.
De demander une fois aux gens leur opinion et de leur dire quelques années après, désolé, vous avez fait le mauvais choix, on va refaire.
Oui,
et puis surtout, il faut se rappeler le climat dans lequel s'est déroulée la campagne pour le premier référendum. Convoquer un deuxième référendum, c'est prendre un risque non seulement politique, mais un risque extrême pour ce pays, me semble-t-il. On a oublié depuis le temps l'assassinat de cette députée britannique, oui. Mais c'est ce contexte-là. Quant aux élections législatives, la question qui se pose, c'est est-ce que Boris Johnson va faire la même erreur que Theresa May
qui
a fait les élections,
qui s'est retrouvé avec une majorité
tout à fait,
encore
tout à
plus
fait,
petite.
Tout à fait. Ça, c'est une vraie question. Et là aussi, la confiance qu'il peut avoir en lui peut jouer, en fait.
Alors, il n'empêche, politique fiction, si on refaisait un référendum, est-ce qu'on a une idée de quelle serait l'issue? Et la question qui est derrière, c'est quelle est l'image aujourd'hui de l'Europe en Grande-Bretagne? Parce que très souvent, on dit, les Anglais disaient, ou les Britanniques, tout ce qui nous arrive de mal, c'est la faute de l'Europe. Or là, on a l'impression qu'ils ont bien conscience que le problème vient d'eux.
Alors,
l'Europe n'est pas
responsable
de tous les problèmes.
Je suis d'accord avec vous, hein, parce que quand vous écoutez Boris Johnson cette semaine, il y a deux boucs émissaires. Le premier, c'est les travaillistes et tous ceux qui ont voté Remain, comme les gens qui sont des défaitistes, les gens qui n'ont pas d'avenir, les gens qui sont des bons à rien. C'est ce qu'il a fait comprendre. Ceux qui ont voté pour partir, venez avec moi, nous allons gagner la bataille, la Grande-Bretagne sera le meilleur pays du monde.
En fait, donc déjà, il rejoue Churchill en 40.
Exactement, c'est exactement 39, la même chose, mais c'est un fan de Churchill, a écrit des mémoires de Churchill. Donc il est en train de jouer son Churchill à lui. Ça, c'est la première chose. Donc, il stigmatise tous ceux qui ont voté pour Remain. Et il stigmatise aussi l'Europe, en disant que c'est un peu les mauvais bougres dans cette histoire, parce que l'Europe ne veut pas nous donner ce qu'on voudrait, nous, pour partir proprement de l'Union européenne. Donc, on va retourner leur poser la question. Eh bien, s'ils disent non, eh bien, tant pis, on partira sans accord. Donc, c'est à l'Europe de bouger. Alors, évidemment, on sait du côté européen que ce n'est pas du tout de la même manière qu'ils voient l'affaire et qu'ils disent que Boris Johnson a négocié avec nous pour avoir un accord qui va pour tout le monde.
Patrick Martin-Genier, est-ce que ce Brexit interminable n'a pas ressoudé les Européens? On dit souvent que l'Europe, là, se délite. Ben, finalement, cette affaire du Brexit et la façon dont ça se passe, ça montre que l'Europe, on n'y est pas si mal. Oui. Et ça a ressoudé les 27, on a l'impression.
Oui, c'est vrai, sur les principes fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, on a bien vu qu'elle était divisée lors des dernières élections et pour l'élection de la présidente de la Commission européenne sur les différents postes. Donc, mais sur les fondamentaux, elle reste unie, et notamment sur le Brexit, on l'a bien vu. Parce que la tentative de Johnson, il est intelligent, c'est essayer de diviser l'Europe. Il a appelé Emmanuel Macron, il a appelé Angela Merkel, il a appelé le président de la Commission européenne, et pour l'instant, nous faisons front commun, parce qu'il a mis une demande... comment dirais-je, inacceptable, sur le fameux backstop. Vous ne pouvez pas dire on va détruire cet accord, c'est-à-dire qu'on va rétablir, d'ailleurs, je vous dirais qu'ils ont dit dans leur campagne qu'ils rétabliraient une frontière, même légère, avec l'Irlande. Et le ministre de l'Irlande du Nord qui viendrait être nommé a été très mal accueilli en Irlande, car une vraie peur que la violence reparte. S'agissant d'un second référendum, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il pourrait y avoir de nouvelles élections législatives. Rappelez-vous ce qu'il a dit avant-hier en prenant ses fonctions de Premier ministre. Nous attendrons 99 jours, soit moins. Ça veut dire qu'il s'apprête éventuellement à dissoudre le Parlement, ce qui pourrait faire office d'un second référendum, parce qu'on sait très bien qu'il n'a plus de majorité. Et aujourd'hui, la majorité tient à 2 députés, en ce compris le parti unioniste en irlandais. En d'autres termes, il n'a plus de majorité et il sait qu'il va droit dans le mur et que la seule planche de salut éventuellement, ce sont des élections qui pourraient faire office de second référendum.
– Sylvie Matelli, juste un mot sur l'Europe. Est-ce que quand même ce Brexit-là, indétricotable, ça ne dissuade pas d'autres pays qu'on disait candidats éventuellement pour sortir de l'Union européenne, pour suivre la Grande-Bretagne, on se souvient du Danemark, de la Suède. Finalement, ils se disent, bon, on ne va certainement pas faire un Danemark exit, un Swedish exit, un Dan exit, etc.
Alors, ça a clairement dissuadé les pays. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ça a dissuadé tout un ensemble de partis nationalistes ou populistes qui avaient dans leur programme l'idée de sortir de l'Union européenne ou pour les pays de la zone euro, de sortir de la zone euro, et qui l'ont discrètement effacé et ne prononce absolument plus le terme.
En France,
tout à fait. En France en particulier. La question qui va se poser, c'est quid de la suite, en fait, parce qu'au fond, encore une fois, un Brexit dur, sans accord, risque d'être à court terme extrêmement difficile. Rien ne nous dit ce que va être la suite et le long terme, puisque ça ne s'est jamais produit. Donc imaginez un Royaume-Uni à l'image de ce qu'en explique Boris Johnson, qui finalement se ressaisit, qui retrouve une prospérité, une véritable place sur la scène internationale grâce à sa sortie de l'UE. Là, ce sera un vrai risque pour l'Europe, mais ça se posera dans 5 à 10 ans.
Ce n'est pas ce que prévoient les économistes.
J'étais
au Danemark il y a une quinzaine de jours, ouais. Juste après l'élection de la nouvelle Premier ministre. J'en ai parlé avec pas mal de monde et ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, depuis quand et quand ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le Brexit, ça a... remis en faveur l'Union européenne et ça portait un coup assez fatal à l'extrême droite danoise, le Danish Folk Party, la partie du peuple danois, qui a très très mal, qui a eu un résultat extrêmement décevant lors des dernières élections, uniquement parce que les gens trouvent que c'est tellement l'horreur en Grande-Bretagne.
Oui. Et je me dis... Vous souvenez, on parlait de l'effet domino, on disait si la Grande-Bretagne sort, le Danemark va sortir, la Suède va sortir.
Non, j'y pense pas. Et quand je vois les affiches en France pour le Frexit avec Jacques Asselineau, je me dis, mais vraiment, je vous souhaite bien du courage, parce que si vous votez pour ça, bah, vous allez vivre probablement la même chose, voire pire, ce
François
qu'on vit en Grande-Bretagne.
Oui. Alors, l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson intervient à un moment où le Royaume-Uni est en pleine crise avec l'Iran, en cause des pétroliers saisis par chacun des pays, l'un en Méditerranée et l'autre dans le Golfe Persique. Vous voyez ce sujet de Barbara Steck et Ilana Azanko.
Au large de l'Iran, la tension est encore montée d'un cran dans le détroit d'Ormuz. Depuis hier, des forces de la Royal Navy escortent les navires sous pavillon britannique. Conséquence directe de la saisie musclée d'un pétrolier britannique par un commando de l'armée iranienne il y a tout juste une semaine au même endroit. Selon Téhéran, le navire aurait enfreint le code maritime international.
Les gardiens de la Révolution ont saisi courageusement ce navire britannique qui était en infraction car il refusait d'obéir aux ordres et aux réglementations. À mon avis, cet acte était juste et approprié.
Le pétrolier est désormais immobilisé dans le port iranien de Bandar Abbas avec son équipage. 23 hommes retenus à bord. Londres soupçonne Téhéran d'avoir riposté suite à la capture du Grace One. Ce pétrolier iranien arrêté début juillet à Gibraltar, au sud de l'Espagne, par les autorités britanniques. Le navire est suspecté d'avoir voulu livrer du pétrole à la Syrie en violation des sanctions contre Damas. Lundi, Jeremy Hunt, encore ministre des Affaires étrangères britannique pour quelques heures, demande la mise en place d'une mission de protection avec les Européens dans le Golfe.
C'est le cœur lourd que nous annonçons cette présence internationale accrue dans le Golfe parce que notre diplomatie s'est concentrée sur la désescalade des tensions dans l'espoir que de telles initiatives ne soient pas nécessaires. Nous ne cherchons pas la confrontation avec l'Iran. Nous avons saisi toutes les occasions de réduire les malentendus.
Dans cette région stratégique du Golfe, le détroit d'Ormuz est un couloir maritime où transite près de 30% du pétrole brut mondial. Un enjeu commercial crucial. Dans cette zone, les tensions ne cessent de monter depuis le retrait américain en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump, qui n'a pas manqué une nouvelle fois d'afficher son hostilité envers Téhéran.
Nous allons discuter avec le Royaume-Uni. Tout ça démontre ce que je dis sur l'Iran. Des ennuis. Que des ennuis.
Boris Johnson, le nouveau Premier ministre britannique, considéré proche de Donald Trump, espère conclure un accord commercial avec les États-Unis après le Brexit. Alors dans cette crise avec l'Iran, le chef du gouvernement britannique choisira-t-il la ligne européenne ou celle de Washington ? De son côté, l'Iran et son ministre des Affaires étrangères ont félicité Boris Johnson tout en lui adressant un avertissement.
Je félicite mon ancien homologue Boris Johnson pour sa nomination au poste de Premier ministre. L'Iran ne cherche pas la confrontation, mais nous avons plus de 2400 km de côte sur le golfe Persique. Ce sont nos eaux et nous les protégerons.
Jusqu'à présent, Londres continue de défendre aux côtés de l'Allemagne et de la France l'accord sur le nucléaire iranien. Un accord que Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères, avait défendu auprès de Donald Trump et son équipe.
Le gouvernement regrette la décision de l'administration américaine de se retirer de l'accord et de réimposer des sanctions américaines à l'Iran. Nous avons fait tout notre possible pour empêcher ce résultat dès le moment où l'administration du président Trump a pris ses fonctions.
Une nouvelle réunion extraordinaire pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien aura lieu à Vienne ce dimanche 28 juillet.
Patrick Martin-Jeunier, est-ce que Boris Johnson ne pourrait pas devoir commencer son mandat par gérer ce qui pourrait devenir une grave crise avec l'Iran ?
Bien sûr, c'est même la première crise qu'il doit gérer. Il arrive au pouvoir dans une situation extrêmement tendue dans le détroit d'Ormuz, non seulement avec ses pétroliers. Ça, c'est une première crise, mais il y a une seconde crise très importante, c'est qu'il y a une anglo-iranienne, Zaghari Ratcliffe, qui est enfermée là-bas depuis 2 ans et que Boris Johnson n'a toujours pas réussi à libérer. Et au contraire, il a mis de l'huile sur le feu en disant qu'elle faisait du journalisme là-bas alors qu'elle était en vacances. Donc c'est une monnaie d'échange et ce matin, il y a un autre contentieux. L'autre contentieux, ce sont des sommes d'argent que le Royaume-Uni est censé verser à l'Iran sur un commerce de tanks des années 70. Et une juridiction londonienne ce matin a dit que le Royaume-Uni ne devait aucune somme d'argent à l'Iran. Alors que Boris Johnson avait fait comprendre qu'en réalité, ce pourrait être une monnaie d'échange pour libérer cette anglo-iranienne. Donc c'est une des premières crises à gérer. Quant à la crise avec les tankers portant pavillon britannique, on ne voit pas bien ce que pourrait faire le Royaume-Uni. Il n'y a pas d'intervention militaire à planifier.
Les Iraniens ont saisi un pétrolier britannique.
Ils ont saisi un pétrolier britannique. Donc la seule solution, c'est effectivement renforcer la coopération d'une part avec les États-Unis, d'autre part avec l'Europe, car évidemment que la coopération en matière de défense et militaire avec l'Europe ne va pas s'interrompre.
Alors justement, Sylvie Matelli, bon, pour résoudre cette crise iranienne, cette crise en Iran, est-ce que le Royaume-Uni, est-ce que Boris Johnson va devoir choisir ses alliés ? Soit je m'allie avec les Européens, qui étaient mes alliés naturels, ou soit je m'allie plutôt avec les Américains ?
Alors, on présente souvent de manière caricaturale la relation à l'Europe ou la relation aux États-Unis du Royaume-Uni. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer. Dans le cas de l'Iran, on est sur deux positions radicalement différentes. Et là, le Royaume-Uni est plutôt européen. C'est-à-dire, pour les États-Unis, c'est une question politique. L'Iran a humilié les États-Unis. Il faut changer ce régime. Il faut faire plier ce régime. Et c'est véritablement une question de vie ou de mort pour les Américains. Enfin, j'exagère un petit peu les termes. Mais
faire tomber les mollahs.
Tout à fait. Faire tomber les mollahs. Ou en tout cas, faire plier ce régime qui nous a humiliés il y a quelques années. Pour les Européens, c'est beaucoup plus pragmatique. C'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité et les Britanniques ont bien compris qu'ils avaient les mêmes intérêts que les Allemands et les Français dans cette affaire. Et donc, ils cherchent d'abord et avant tout à sécuriser. D'ailleurs, quand ils ont décidé d'envoyer des navires pour protéger les eaux territoriales, ils ont demandé aux Français et aux Allemands de les accompagner plutôt que de s'adresser aux Américains. Donc ça, c'est un élément très important. Par contre, là où les Britanniques sont coincés et gênés depuis des années avec la relation transatlantique, au-delà de la special relationship, la relation spéciale et toute la proximité linguistique, culturelle et qui lie les deux pays, c'est aussi une question de sécurité, c'est-à-dire sur un certain nombre de capacités militaires et de défense, les Anglais, plus que tout autre Européen, sont extrêmement dépendants des Américains et n'ont pas de marge de manœuvre en la matière.
Ils ont... Si on dit souvent que l'armée anglaise est alliée de l'armée française,
oui,
en fait, nos armées coopèrent beaucoup.
Tout à fait. Alors justement, ils ont essayé de se rapprocher pendant des années de pays. D'abord, ils ont essayé de construire une Europe de la défense. On se souvient la déclaration de Saint-Malo entre Jacques Chirac et Tony Blair qui souhaitaient renforcer la défense européenne pour une plus grande autonomie également de la défense britannique. Ils ont eu beaucoup de mal à négocier avec les Allemands parce qu'on n'a pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes façons de pratiquer la défense, on n'a pas les mêmes moyens et les mêmes coutumes et le même savoir-faire. Donc ils se sont rapprochés des Français. Mais ça ne suffira pas, ça ne suffira pas. Il y a un certain nombre de projets aujourd'hui de capacité militaire où très clairement on ne voit pas comment ces projets peuvent aboutir du côté britannique s'il n'y a pas l'allié américain pour les accompagner.
Mais Philippe Turl, parce que c'est un peu la promesse de ce Brexit, d'ailleurs Donald Trump le dit, quitter l'Union européenne et je vais faire un merveilleux accord commercial avec vous, les Anglais. Et bon, alors que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan commercial, est-ce que ce n'est pas une carte aussi que pourrait jouer Boris Johnson, la carte atlantiste?
Oui, c'est une carte à jouer, mais le problème c'est que vous savez très bien que Donald Trump est sur un élan nationaliste. Make America Great Again. Donc, il est peut-être un peu moins ouvert à faire des grands
contrats. Il a promis un accord commercial.
Il a promis, mais oui. Donald Trump promet souvent des choses et il change d'avis. Ah. Vous savez comment il a dit que Theresa May avait très bien travaillé pour le Brexit et trois jours après, il a dit que c'était nul ce qu'elle avait fait. Donc, il peut très vite changer d'avis. Ça dépend comment Boris Johnson réagit. Et ensuite, Donald Trump, il verra en connaissance de cause. Donc, rien n'est établi là-dessus. Et pour revenir sur la question de l'Iran, la Grande-Bretagne, pour moi, est trouvée coincée dans une situation qui concerne l'Iran d'un côté, les États-Unis de l'autre. Et les États-Unis ont imposé des sanctions sur l'Iran qui est quand même aux abois. Et l'une des seules marges de manœuvre que l'Iran a pour mettre la pression sur les États-Unis, c'est de mettre la pression sur les bateaux qui traversent le Strait d'Ormuz, qui est juste en face de chez eux. Et donc, évidemment, l'affaire est trop belle pour prendre en main un bateau britannique, surtout après que les Britanniques ont arrêté un bateau iranien
à Gibraltar.
Alors, on ne sait pas trop ce que ce bateau faisait là. Mais malheureusement, les Britanniques sont trouvés au milieu de tout cela. Et je pense que, honnêtement, pardonnez-moi le terme, mais Boris Johnson est très emmerdé par cette histoire.
John Henley, mais est-ce qu'on ne revient pas pour revenir à l'éternelle question là, de l'Angleterre qui doit choisir et son cœur balance, on le voit bien, entre l'Europe et le grand large. Alors Churchill avait dit « choisira toujours le grand large », mais apparemment, les choses varient, non ?
Oui, absolument. Mais cette question de la relation spéciale avec les États-Unis, c'est quelque chose que je pense les Anglais imaginent beaucoup, beaucoup plus importante, en fait, qu'elle ne l'est véritablement. Il n'y a pas vraiment de relation spéciale. C'est une idée qui a été inventée pendant la guerre, à l'époque justement de Churchill et d'Eisenhower. Mais aujourd'hui, et je reviens à ce qu'avait
dit... J'avais entendu une fois, moi, une Anglaise dire, écoutez, je me trouve plus de points communs avec quelqu'un habitant au Texas qu'avec quelqu'un habitant en République tchèque.
Ce n'est pas
avec
vrai.
Avec qui j'ai rien à dire.
Parce qu'on parle la même langue.
Ben oui, juste parce qu'on parle la même langue. Mais la personne qui habite en Tchéquie est plus voisin, en fait, et on a plus en commun avec d'accord. eux, véritablement, surtout au sein de l'Union européenne. Mais pour revenir avec ce que disait Philippe Turl, Trump, non seulement il peut changer d'avis, mais ce fameux accord de libre-échange que cherche la Grande-Bretagne avec les États-Unis pour après le Brexit, ce serait certainement sur les termes et les conditions des Américains. Ce n'est absolument pas les Anglais qui vont dicter le terme de cet accord. Et ça veut dire, pour les Britanniques, sans aucun doute, si cet accord se fait et l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, des États-Unis à Londres, a été très très clair sur ce point-là, les États-Unis attendront l'ouverture de l'énorme marché du service de santé national aux multinationales. Britannique. L'ouverture des supermarchés britanniques aux bœufs, aux hormones américains et aux poulets lavés, au chlore, etc. Donc ce sera vraiment sur les termes des Américains.
Martin Genet, oui.
Oui, non seulement ça, mais on va retrouver l'Irlande, excusez-moi de remettre l'Irlande là-dedans, parce qu'il y a un lobby irlandais très puissant au Congrès des États-Unis, et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, qui est à majorité démocrate, a dit qu'elle refuserait de faire ratifier un accord sur un grand échange commercial.
Parce que les Irlandais sont très européens.
Parce que les Européens sont très européens, et donc la Chambre des représentants protégera les intérêts irlandais, et tant qu'il n'y aura pas d'accord sur la frontière irlandaise, il n'y aura pas d'accord commercial avec les États-Unis.
Oh, le billard à quatre si les Américains d'origine irlandaise se mettent dans la partie.
C'est ça, véritablement. Ouais. Et le second point très important, c'est qu'on a toujours dit que si la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni partaient de l'Europe et ne tournaient pas le dos pour autant au continent européen, c'est une puissance nucléaire. Et vous aurez peut-être remarqué, même si ça n'en est qu'à ses balbutiements, que l'initiative européenne d'intervention du président de la République qui a été mise à l'honneur le 14 juillet, eh bien, le Royaume-Uni en fait partie, parce qu'elle ne pourra pas échapper à une coopération militaire étroite avec l'Union européenne.
Et parce que le Royaume-Uni sait pertinemment et depuis longtemps que son indépendance et son pouvoir face aux États-Unis, c'est d'avoir aussi un contre-pouvoir, et ce contre-pouvoir est paradoxalement européen.
Vous savez que ça n'a pas toujours été une lune de miel, hein, parce que dans les années 60...
Entre Français et Anglais.
Dans les années 60, les États-Unis avaient demandé à l'Angleterre, la Grande-Bretagne, de les aider pour le Vietnam. Harold Wilson a dit non. Dans les années 80, Margaret Thatcher avait envie que les troupes américaines l'aident dans la guerre des Malouines. Ronald Reagan a dit non. Et vous vous souvenez que c'est Tony Blair qui est allé avec George W. Bush en Irak. On le traitait à l'époque d'une caniche vis-à-vis des États-Unis. Ils avaient vu la catastrophe que ça a été. C'était la fin de Tony Blair. Donc, la perception des Britanniques sur cette relation spéciale n'est pas vraiment toujours que ça soit quelque chose d'extrêmement profitable pour les Anglais.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Pourquoi Boris Johnson haït-il tellement l'Europe, Philippe Turl? Est-ce qu'il haït l'Europe d'abord?
Il faut savoir une chose, on l'a quand même répété plusieurs fois pendant cette émission, que Boris Johnson change d'avis comme il change de chemise. Et pendant longtemps, il a tergiversé pour savoir, je vais voter en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, ou non, je vais être favorable au Brexit, je ne sais pas quoi choisir. Et au moment de l'annonce du référendum, il lui a fallu 15 jours
de réflexion. Il paraît qu'il avait deux tribunes d'ailleurs, une qui défendait le maintien dans l'Union et l'autre qui disait non au maintien dans l'Union.
Exactement. Et pourquoi il a choisi le départ? Certes, il a critiqué l'Union européenne quand il était à Bruxelles, parce que c'était monnaie courante pour le journal pour lequel il travaillait.
C'était pour faire de bons éditos qu'il faisait ça?
Oui, c'était. Mais je ne sais pas si vraiment il y pense, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Et pourquoi il a choisi le Brexit? C'est parce qu'à l'époque, David Cameron, qui était le Premier ministre, a appelé tout le monde dans son parti à voter en faveur du maintien. Et lui, il se disait, mais si je vote en faveur du maintien, je vais être écrasé par David Cameron si on reste dans l'Union européenne. Donc il faut que je crée un personnage, il faut que je sois indépendant de tout cela. De toute manière, on ne gagnera pas parce que les sondages sont contre nous, mais j'aurais fait un personnage qui défend les gens qui sont humiliés par l'Union européenne, et après, ça ira mieux pour moi. Mais en fait, finalement, il a gagné. Donc maintenant, il faut qu'il
livre le travail.
Derrière tout avec Johnson, il y a l'ambition.
Le peuple britannique sera-t-il patient encore longtemps? John Henley, qu'est-ce qu'ils en ont Ça fait 3 ans. Hein.
C'est une très bonne question. Et voilà, oui, ça commence à chauffer assez sérieusement. C'est un pays, mais divisé à un point qui est vraiment difficile à imaginer. Non, je pense que la réponse est non. Ils ne vont pas patienter beaucoup plus longtemps.
Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, des burn-out, mm-hmm. et vraiment qui ne supportent pas le Brexit parce qu'ils sont tellement angoissés par le fait de ne pas savoir mm-hmm. ce qui va se passer qu'ils sont sous traitement médical. Hein. Je ne blague pas, mais c'est à ce niveau-là.
Pour les entreprises, c'est une véritable catastrophe. Ouais, c'est une véritable catastrophe pour les entreprises. L'incertitude.
Quelles sont les propositions de Boris Johnson pour l'avenir du Royaume-Uni une fois sorti de l'Europe ? Donc, Sylvie Matelli, quel est le programme ? On sort de l'Europe le 31 et alors après ?
Après,
mais si, il a dit, je vais faire du Royaume-Uni l'endroit le plus génial de la Terre.
Exactement, hein. J'allais vous répondre ça.
Ah bah pardon. Voilà.
ce sont des
alors
slogans.
C'est quoi ?
Ce sont des slogans. C'est projet
alors,
des
dans
slogans.
L'idée de Boris Johnson, c'est que le Royaume-Uni va être un pays terriblement attractif une fois qu'il sera libéré de tout ce carcan et cette bureaucratie européenne. Donc les investisseurs vont arriver en masse.
Il va faire du dumping fiscal.
Tout à fait. La livre sterling, là, il a peut-être raison, mais je ne suis pas sûre qu'il l'ait anticipé. La livre sterling va se casser la figure, donc ce qui avantagera les entreprises britanniques qui souhaitent exporter, bien évidemment. Il y avait eu un frémissement avant le référendum de 2016, qui avait d'ailleurs été instrumentalisé par les pro-Brexit, des relations commerciales avec les pays tiers non européens. Donc il y avait cette idée, au fond, regardez, on est déficitaire dans notre commerce avec l'Union européenne, alors qu'on est excédentaire avec tout un ensemble de pays, et en particulier les pays du Commonwealth. Donc il y a cette idée de restaurer cette Grande-Bretagne où le soleil ne se couche jamais, que l'on a connu. On parlait du 19e siècle tout à l'heure.
C'est un peu ça d'ailleurs, c'est l'un des ressorts du Brexit, c'est le Commonwealth, c'est cette Grande-Bretagne du 19e.
Complètement. Mmh. C'est un rêve quasiment d'empire. Hein, et ils veulent, c'est vraiment ça qu'ils veulent redécouvrir les Brexiteurs. Sauf que le monde a changé. Et en fait, parce que, en fait, au 19e siècle, si les pays du Commonwealth et ailleurs dans le monde ne voulaient pas faire du commerce avec l'Angleterre,
on envoyait les bateaux.
Et ce n'est pas ce qui va se passer aujourd'hui avec l'Inde, la Chine, les États-Unis.
Oui, mais ça ne compensera pas la perte du commerce avec l'Union européenne. Absolument. Parce que l'essentiel du commerce se fait avec l'Union européenne.
Avec les voisins.
Patrick Martin-Jeunier, de quels moyens dispose l'Union européenne pour obliger les Anglais à payer la facture en cas de Brexit sauvage ? Puisque pour quitter l'Union européenne, les Anglais doivent payer 45 milliards d'euros d'engagement de reste à charge sur les programmes qu'ils ont signés.
Écoutez, on a beau chercher, nous n'avons aucun moyen préventif de les faire payer. Vous avez vu que Boris Johnson a dit « nous ne paierons pas les 39 millions de livres, 45 millions, milliards d'euros ». Et donc ça risque de se terminer devant les juridictions arbitrales, devant des tribunaux, et ce serait assimilé à un défaut de paiement de la part du Royaume-Uni, ce qui fait que l'image
de marque qui ne respecte pas sa signature.
Ce serait très grave pour le Royaume-Uni. Ce serait désastreux. Par conséquent, ça se terminerait fatalement en contentieux. Et je pense que Boris Johnson souhaite éviter cela à tout prix, mais il a quand même évoqué cette menace.
Mais il y a une chose qu'il n'a pas dit, c'est que s'il veut signer des accords commerciaux avec des pays de l'Union européenne, c'est sûr qu'ils vont dire, bah, vous payez d'abord et
d'abord
après
vous payez les 45 milliards et après on signe. Voilà.
Et il y a une partie de la facture qui relève du paiement des retraites de fonctionnaires britanniques, donc qui sera payée d'une manière ou d'une autre par le Royaume-Uni, quoi qu'il en soit.
Boris Johnson est-il prêt à déclencher une nouvelle guerre en Irlande ? Est-ce qu'on n'exagère pas un tout petit peu ? C'est vraiment une question naïve. Hein. L'idée qu'on pourrait retourner dans les conflits des années 70 si on mettait une frontière pour contrôler les camions qui passent entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.
Le problème, c'est que peut-être, sauf que le problème, c'est que c'est les Irlandais et c'est les deux populations des deux communautés, des deux côtés de la frontière qui le disent eux-mêmes. C'est eux qui ont peur de ça. Ouais. Donc, ce n'est pas nous. Qui disent, c'est les communautés
qui ne veulent pas qu'on remette une frontière entre les deux Irlandes.
Vous avez 30 000 personnes qui passent, je crois que c'est tous les jours, de l'Irlande du Nord à l'Irlande de manière totalement libre aujourd'hui. Imaginez un Irlandais qui vit en Irlande du Nord, qui aujourd'hui va travailler en Irlande sans aucun problème avec sa voiture, il part tous les matins. Le jour où on remet une frontière, le premier jour il va peut-être le supporter, le deuxième jour aussi, au bout de 3 ou 4 mois, et d'autant plus si les choses se durcissent, au moindre événement les choses vont se durcir, et ça risque de devenir clairement insupportable.
Il y a eu 2 attentats récemment avec une personne qui est décédée, il y a un vrai risque risque de faire repartir le terrorisme, notamment par la branche dissidente de l'armée républicaine irlandaise.
Qu'est-ce que Boris Johnson pense de la couronne, de la reine? Alors, je ne sais pas qui veut répondre, Philippe Thurle, Patrick Martin-Lenier.
Je pense qu'il est très fier d'avoir été reçu par la reine cette semaine. Bon, on ne saura jamais vraiment parce que les réunions hebdomadaires avec la reine restent secrets. Il n'y a personne dans la pièce, il n'y a pas de micro, il n'y a personne qui prend des notes.
Réunion hebdomadaire.
Hebdomadaire, tous les jeudis, il me semble, ils rencontrent la reine pour une tête-à-tête. Bon, évidemment, elle est de bons conseils parce qu'elle a connu tous les premiers ministres depuis Winston Churchill.
Oui, ça doit être.
Donc, quand même des anecdotes à lui raconter. Mais je pense que, connaissant Boris Johnson comme je le connais, pas personnellement, mais je pense que le personnage des grandes écoles d'Oxford, typiquement britannique, empire, bon, il était content de fréquenter Elisabeth II.
Le Royaume-Uni est-il en train de vivre une vraie révolution politique avec l'écroulement des Tories et du Labour ?
Oui, on voit, tout à fait, on voit. En fait, le Brexit a eu le même effet sur le paysage politique britannique qu'Emmanuel Macron a eu sur le paysage politique français. C'est-à-dire, il a complètement explosé.
Dans les deux camps, il y a des pros et des anti,
on a vu, exactement. Le problème c'est, avec le Brexit, c'est que c'est un problème qui ne respecte pas du tout l'ancien clivage droite-gauche. Ça coupe les partis, ça coupe complètement à travers les anciens clivages. Et on a vu donc la chute du Parti conservateur, la chute du Parti travailliste et la montée du parti de Brexit, pour le Brexit de Nigel Farage. Et en même temps aussi, de l'autre côté, la montée, une remontée du Parti des libéraux-démocrates qui sont très pro-européens. Et donc, on a maintenant quatre.
Ceux qui sont pour la fermeture et ceux qui sont pour l'ouverture.
Tout à fait. Et quatre partis en Grande-Bretagne, à plus ou moins à égalité, alors qu'avant, il n'y avait que les deux grands partis.
Boris Johnson va-t-il mener une politique libérale et populiste ?
Je pense qu'il va essayer de le faire, mais jusqu'à où, personne ne sait pour le moment. Et il se peut aussi que s'il va droit dans le mur, il pourrait finir comme le Premier ministre qui aurait été le moins longtemps en Grande-Bretagne.
Que vont se dire Macron et Johnson, puisqu'ils vont se voir ?
Ah bah, ils se sont déjà vus au téléphone. Ils se sont déjà eu au téléphone et il a réitéré la position de l'Union européenne, à savoir qu'il n'y aura pas de renégociation de cet accord de divorce.
Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Elle sera rediffusée ce soir à 22h35. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 5.